Bonsoir à tous, c'est Jeudi Noir qui revient après une longue période de confinement, glaciation, glaciaire, gestes barrières, distanciation sociale, tout ce que vous voudrez, subi, je précise. Vous avez manqué terriblement, horriblement, voilà, tous les 15 jours, ce créneau à la même heure. On est très heureux de vous retrouver ce soir. Vous venez d'entendre Enfance Sauvage. Le titre, c'est Immeuble Mou, et c'est un titre en hommage, plutôt en mémoire de l'effondrement du Rana Plaza en 2013, à des ateliers de confection au Bangladesh, dans lesquels des paquets d'ouvriers, d'ouvrières, d'enfants se sont retrouvés aussi écrasés par cet immeuble vétuste dans lequel ils travaillaient pour nous fabriquer des vêtements. Ce titre, elle a été choisie une fois de plus avec un à propos légendaire de José, pour illustrer le livre dont on va vous parler ce soir, qui s'appelle La vérité en ruine, et qui est un livre un peu hybride dans la mesure. Alors, il est sous-titré Manifeste pour une architecture forensique. C'est un livre de Eyal Weizman qui est publié chez Zone. C'est le livre d'un architecte, philosophe, épistémologue, à la recherche d'une vérité qui se cache dans les ruines des villes livrées à la guerre civile ou au contrôle policier. Il est sorti il y a pas très longtemps, hein. Donc c'est Michel qui vous présente ce texte ce soir. Donc l'auteur Eyal Weizman est un architecte de formation, si je me trompe pas. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire deux mots sur son parcours?
Non, j'ai pas creusé. Il est né à Haïfa et j'ai l'impression que son parcours part essentiellement d'un militantisme contre la politique de son État, l'État d'Israël. Et donc, c'est quelqu'un qui a pas mal enquêté, à partir de son background d'architecte, sur les agissements de l'armée israélienne, mais pas que. Et donc c'est un point de départ politique. Mais est-ce que c'est lui, il avait aussi écrit un bouquin dont tu m'avais parlé à l'époque, il y a longtemps, que j'avais pas lu, qui avait écrit le bouquin sur un bouquin un peu deleuzien
sur les espaces lisses et striés
et la façon dont l'armée israélienne se déplaçait dans les immeubles lors des guerres urbaines,
en reprenant des concepts de la French Theory française.
Exactement. Et donc c'est ça, à mon avis, qui rend peut-être le parcours philosophique de ce gars intéressant. C'est que, si je caricature peut-être un peu, enfin beaucoup même, dans les théories philosophiques françaises centrées sur la politique de ces 20-30 dernières années, il y a vraiment souvent l'idée que les concepts de vérité et de fait sont des concepts qui sont à la fois philosophiquement et politiquement viciés, c'est-à-dire que ou superflus, c'est-à-dire que le concept de vérité est inutile, c'est une fiction métaphysique qu'il faut dépasser. Et la notion afférente de fait, y a-t-il des, est-ce le fait ou pas? Et pareil, une espèce d'illusion métaphysique dont il faudrait se déprendre, parce que elle a surtout été colonisée par les différentes formes de, comment dire, d'autorité et de pouvoir établis, qui, en quelque sorte, établit une espèce de monopole du fait légitime.
Fixer les faits, c'est fixer la vérité, c'est contrôler les gens, en fait.
Et
ça se réduit à ça.
Et c'est pas entièrement, c'est pas entièrement faux, mais c'est, si j'ose dire, mais je pense que c'est très très mal formulé. Et surtout, ça passait à côté d'un fait assez monumental, qui était en partie aussi visé par cette théorisation, c'est que les États passent leur temps à mentir. Et c'est quand même,
c'est-à-dire à dissimuler les faits,
ouais, et
non pas les établir.
Alors, ce qui est hallucinant, c'est que dans le climat philosophique dans lequel Jean-Mathias et moi on a grandi, énoncer ce genre d'évidence, enfoncer ce type de porte ouverte, pouvait paraître comme un truc un peu d'idiot. Genre non, mais vous passez à côté de l'essentiel, les gars.
Le pouvoir des experts, le contrôle.
C'est pas ça qui compte. Et c'est vrai que d'une certaine manière, je sais que dans la défense de ce type de théorie de la vérité et du fait, c'est-à-dire juste il y a des faits qui sont indépendants de notre conception des choses, et ces faits, on peut éventuellement essayer de les connaître. On s'était souvent cantonné à des exemples un peu basiques, du genre la voiture devant moi est verte. À quoi un Foucauldien ou un Deleuzien un petit peu aguerri, vous pouvez nous rétorquer, tout à fait, mais c'est pas des faits intéressants, on s'en fout. Et ce qui est assez curieux, c'est que en fait, y a toute une dimension de la factualité qui échappe totalement, et c'est être, par exemple, et c'est celle à laquelle Weizman va se heurter, c'est, par exemple, un missile est tombé sur une maison, qui est mort, qui a envoyé le missile, pourquoi est-ce que les gens sont morts, comment sont-ils morts, etc., etc. Et là, dire c'est des faits qui sont pas intéressants, ou dire c'est une construction sociale, ça semble quand même assez faible, disons.
Ah, mais c'est sûr que c'est dans le cas des conflits armés, ou dans le cas, effectivement, d'une politique de guerre, l'établissement des faits, effectivement, est primordial. Parce que sinon, effectivement, il ne reste plus que de la propagande de guerre.
C'est ça. Sauf que moi, je vois mal comment, à partir d'une conceptualité postmoderne, on peut en réalité distinguer tout simplement connaissance et croyance, faits et fiction.
Alors, peut-être, si ça, tu vas nous en dire un peu plus, mais sur ce livre-là, La vérité en ruine, tu dis, donc, Eyal Weizman, ça sonne comme un texte qui cherche à rétablir un petit peu la dignité des faits, l'importance des faits, de l'enquête sur les faits.
Parce que ce qui me semble intéressant dans ce bouquin, c'est que le mec vient de ce philosophe, donc ou architecte, enfin bon, peu importe.
Théoricien.
Théoricien vient de. Vient clairement de la French Theory, telle qu'elle a été.
Donc des gens qui ont tendance justement à minimiser l'importance des faits et de la recherche du vrai en tant que tel.
C'est ça. Et il l'assume. Et alors, ce qui serait curieux, enfin la question que je me pose, c'est est-ce que les théories qui ont présidé à sa formation philosophique l'ont rendu confus sur certains trucs, ou est-ce qu'elles l'ont aidé à appréhender justement
l'ampleur de ce qu'elles ne disent pas.
Plus que ça peut-être, la difficulté qu'il pouvait y avoir à, en quelque sorte, présenter un fait à des gens qui le nient. C'est-à-dire que lui, il va faire de l'architecture forensique, c'est-à-dire qu'il va étudier les traces de crimes de guerre dans l'espace urbain, mais pas seulement. En gros, quelles sont les traces laissées par les exactions des États? Et donc là, il faut quand même reconnaître une certaine factualité. C'est-à-dire le fait qu'une bombe est tombée sur la maison, ça dépend pas de ma conception de la maison et des bombes, tu vois. Bon, c'est pas là-dessus, le relativisme est pas vraiment éclairant d'une manière ou d'une autre, à mon sens. Après, tu peux te demander, et après lui, il va dire, pourquoi est-ce que éventuellement telle bombe est tombée sur telle maison, et comment est-ce qu'on peut le prouver, et ensuite est-ce qu'on peut le prouver? Si on peut le prouver, comment? Et après, autre question, c'est une question plus rhétorique. Est-ce qu'on peut faire admettre aux gens qui sont face de nous que telle bombe est tombée sur telle maison? Et donc là, il y a tout un côté à la fois rhétorique et juridique de reconstitution de la preuve, entre guillemets, et d'administration de la preuve, qui est peut-être que son passé théorique, entre guillemets, postmoderne, l'a aidé dans cette direction-là, je sais pas. Alors malgré tout, il y a des choses là-dessus, si je commence un petit peu par la fin, qui sont assez intéressantes, parce qu'il dit justement...
Deux mots de précision, quand il y a architecture forensique, le terme de forensique m'a intrigué, moi, en fait, du coup, c'est quoi le sens qu'il faut mettre à ça?
Alors forensique, alors il l'analyse vachement, forensique c'est un anglicisme, que les traducteurs, sur lesquels les traducteurs se sont cassés les dents, c'est forensic en anglais, si je le prononce mal, peu importe, enfin bref. Et en fait, c'est l'enquête judiciaire, c'est les enquêtes policières, c'est l'enquête médico-légale. J'ai un cadavre, qu'est-ce qui est arrivé à ce cadavre? Quelles sont les traces qui marquent que ce cadavre a été assassiné, mort de mort naturelle, est mort comme ceci, est mort comme cela.
Donc c'est l'analyse des traces, c'est les experts, quoi.
C'est les experts, complètement. Okay. Il cite la série des experts.
Donc on est sur le registre policier, quand même.
On est sur le registre policier. Et après, il dit que, justement, ça vient d'un mot latin, que j'ai oublié, on s'en fout, qui témoignait aussi de ça, mais avec aussi une dimension politique de quelque chose qui s'exposait sur le forum. Et donc que petit à petit, en fait, le terme de forensic, qui avait été repris en anglais à partir du latin, avait perdu certains de ses sens et que son sens s'était appauvri. Et c'est qu'au début, c'était à la fois l'administration de la preuve et en même temps l'exposition de la preuve, devant un public. Et petit à petit, et dans un public, dans un contexte politique. Et que petit à petit, forensic est devenu juste établir les faits. Donc lui, et c'est le groupe, parce que c'est un groupe en fait, il n'est pas tout seul, essaie de reprendre le mot forensique dans son sens le plus complet, c'est-à-dire qu'ils abordent à la fois le fait de recueillir les preuves, essayer de prouver ce qui s'est produit, et ensuite essayer de convaincre les gens dans les différents forums, que ce soit face à une cour de justice internationale, que ce soit dans un procès national, que ce soit à droite ou à gauche, en gros, par rapport à sur Internet, comment convaincre les gens en face de nous.
Mais du coup, on a là dans ce collectif-là, t'as quoi? T'as lui, et sinon c'est quoi? C'est des journalistes, des militants, des historiens,
des informaticiens,
des bénévoles,
pas mal d'artistes.
Okay.
C'est assez intéressant parce que justement il y a toute une analyse de l'image en fait qui suppose justement des gens, des photographes, des vidéastes, des architectes.
Beaucoup de vidéos en ligne sur leur site aussi visiblement.
Et puis eux ils recueillent beaucoup de vidéos et ensuite il faut les analyser parce que les vidéos prouvent rien en elles-mêmes évidemment. Donc il faut recontextualiser, il faut essayer de montrer en quelque sorte et parfois essayer de recouper les différentes vidéos du même événement auquel ils ont pu avoir accès. Et donc c'est des gens qui ont des compétences un peu variées. Qui sont tous évidemment des militants. Mais donc je dis architecte, vidéaste, informaticien, tout un tas de gens comme ça.
Et qui s'intéresse, alors tu disais, bon, évidemment, donc lui il est originaire d'Israël, oui. Mais il vit en Israël aussi
Non, je crois qu'il enseigne, enfin il vit à Londres.
À Londres,
crois,
et d'accord. Et sur le site en fait qu'ils ont mis en ligne suite à ce livre, ou en parallèle hein, à La Vérité en Ligne.
Je crois que le site précédait le livre.
Oui, antérieur, ouais. Mais t'as beaucoup de documents qui sont des crimes ou des assassinats d'État par drone, etc., qui sont pas du tout en Israël, en fait.
Oui.
Il y en a un peu partout. Hein.
Oui. Ouais. Oui, ben, il exploite. Dans son bouquin, ça foisonne d'exemples, parce que leur livre est composé, c'est un manifeste, c'est en trois parties. Il y a une partie qui s'intitule « Au seuil de la détectabilité », et où il part un peu de l'origine du type d'enquête qu'ils ont pu faire, et qui part d'un procès qui a eu lieu en Angleterre, qui est assez intéressant. Le procès fait par un négationniste à quelqu'un qui l'accusait d'être négationniste, et donc qui part de l'analyse d'image des camps de concentration. Est-ce qu'on peut prouver que il y avait un trou dans le toit d'une des chambres à gaz? S'il y a des trous et qu'on peut détecter les trous sur une photo qui a été prise par un avion à l'époque, ça prouve qu'il y avait une évacuation pour les gaz. Et le négationniste va dire, on n'a pas la preuve qu'il y a des trous. Et donc, vous pouvez pas prouver que c'était des chambres à gaz. Et des gens vont lui dire, bah, en fait, si on peut prouver à partir de telle image, et une analyse pixel par pixel, qu'il y avait bien les quatre trous qui correspondent à l'évacuation des gaz. Donc il part de ça, et donc en gros, qu'est-ce qui est détectable, et avec toute une analyse de aujourd'hui on est passé aux images satellites, avec le fait que les satellites civils en fait ont une limitation liée à la vie privée en termes de résolution d'image, et que la limite qui a été fixée par le droit, c'est
d'un fil de string,
c'est un pixel qui correspond à un visage. En gros, le pixel sur les images autorisées pour les satellites civils, c'est la taille d'un visage, qui fait qu'il n'est pas identifiable. Les satellites militaires des États, eux, ont une résolution qui peut être sans doute 10 fois meilleure, on ne sait pas trop. Ce qui fait que les satellites militaires peuvent sans doute identifier les visages. Mais dans les images qui sont disponibles pour le public, t'as cette histoire de pixels. Et donc eux, en fait, ils ont pas mal travaillé en Israël, mais pas que. Ils ont travaillé en Syrie, ils ont travaillé au Cambodge.
Sur des vidéos cambodgiennes ou directement sur place?
Alors, les deux, en fait. Ouais. Alors, c'est un travail, qui est... Il y a plusieurs niveaux, parce que justement, alors ça pose plein de questions qui sont super intéressantes. Le bouquin, moi, je le trouve vraiment pas mal. Hein. Il est intéressant à plein d'échelles.
La vérité en ruine, hein, toujours.
La vérité en ruine. Hein,
de Eyal Weizman.
Eyal Weizman, publié chez Zone. Parce que justement, il va dire, nous, on est obligé de coordonner. En gros, on est face à des États criminels qui disposent d'un nombre colossal, d'une quantité colossale d'informations qu'ils ne veulent pas divulguer. Et nous, très très souvent, on va être obligé de recomposer ce qui s'est produit à partir des traces qui sont laissées à différents niveaux. Et il va falloir reconstituer le fait, ce qui s'est réellement passé, à partir justement des informations qui sont accessibles. Et ces informations, elles peuvent être directement matérielles. Par exemple... un truc tout bête, c'est que les États-Unis, alors maintenant ils l'ont reconnu, hein, mais ont mené une guerre secrète des drones au Pakistan sous Obama, je crois. J'ai oublié les dates exactes, dans les années 2010. Et un des marqueurs caractéristiques de ça, c'était que il y avait des bombes qui faisaient des trous dans les toits qui avaient une certaine taille. Et ensuite, les bombes avaient des trucs à retardement, c'est-à-dire qu'elles perçaient le toit, mais elles n'explosent pas à l'impact, elles explosent quelques secondes après. Et donc, c'est pour tuer les gens qui sont à l'intérieur des immeubles. Et pendant très longtemps, l'armée américaine a nié complètement avoir fait ce genre d'attaque de drones au Pakistan. Et donc, il a fallu reconstituer en quelque sorte ces attaques à partir des traces,
d'explosion.
Des traces d'explosion. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de gens qui filment des choses. Il y a des survivants. Il y a tout un tas de trucs. Et donc, ils peuvent aller sur place. Il y a aussi des images satellites parce que. Alors ça, c'est un truc qu'il raconte qui est assez intéressant, c'est que il y a des Il y a des compagnies d'information privées qui ne dépendent pas d'État, qui ont des satellites qui font le tour de la planète à peu près en permanence. Et qui prennent des photos.
Ils peuvent aider à documenter.
Et ces photos-là s'achètent. C'est-à-dire qu'elles sont dans des banques de données et tu peux dire ben, je voudrais vous acheter des photos sur ce qui s'est. À tel endroit, à tel moment. Il y a une limite, c'est que les satellites, en gros, ils mettent 24 heures avant de repasser devant un point. Et puis ils saisissent un instant, mais bon, tu peux faire du avant-après. Avant il y a un immeuble, après il y a un gros trou dans l'immeuble, est-ce que ce trou correspond par exemple à la taille d'un missile? Donc ils vont collecter comme ça plusieurs niveaux d'informations et essayer à partir de là de reconstituer des preuves.
Et l'architecture forensique c'est ça, c'est la reconstruction à partir de traces, d'éléments visuels ou de vestiges urbains
d'interprétation d'images
et tu reconstitues des faits. Donc en fait c'est une métaphore pour la construction la vérité comme construction sociale à partir de traces.
Alors non, parce que justement c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il dira pas que la vérité c'est une construction sociale, parce que lui il a affaire à des trous de missiles.
D'accord, donc
un trou de missile c'est pas une construction sociale.
D'accord, donc c'est un travail d'enquête, d'archivage, de recoupement de preuves.
C'est ça.
Et de construction à partir d'un fait, de construction rétrospective d'un fait à partir des traces, des traces qu'il laisse.
C'est donc, ça.
Et ça, c'est ça qu'il appelle architecture forensique.
Voilà.
D'accord, bien. Ouais.
Et donc c'est quand même très intéressant et il travaille justement assez souvent avec avec des associations, avec des tribunaux, avec tout un tas de gens. Et donc ça va il a pu travailler avec des gens qui avaient travaillé en Bosnie. Qu'est-ce qu'on fait en Amérique du Sud? Qu'est-ce qu'on fait des cadavres? Comment est-ce qu'on reconstitue ce qui est arrivé à un cadavre? Comment est-ce qu'on est-ce que leurs maisons ont disparu et tout un tas de trucs? Et donc il s'agit de reconstituer tout un tas de traces que les États ont essayé d'effacer.
D'accord. Ok. Est-ce qu'on fait peut-être une première pause musicale et puis ensuite on reprend là-dessus. Donc on est toujours voilà. Donc avant de reparler de la vérité en ruine, manifeste pour une architecture forensique, on fait une deuxième pause musicale.
Ihr Leben, die Blinden, die glauben, was sie sehen, und die Tauben, die glauben, was sie hören. Das ist der Bund auf einer Küchenhocke, sitzt ein Hörer, der glaubt, alles, was er anfassen kann. Die Sonne liegt im Schoß. Zweites Geschoss. Rolle für Rolle, Raum, Rasen, abgezielt, in die Gänge stehen, mit herum. Betrachten die Wände aufmerksam. Rechtschreibfehler Könnten nicht mal ihren Namen entziffern Auf ins nächste Geschoss Welche ist so wundern, die fertig besteht Nur die Treppe erreicht werden kann Die Lachen und die Männer, die gehören der Firma, damit kacheln sie die Wünden an, die da brennen ran. Viertes Geschoss, hier lebt der Architekt, der geht auf den Sachplan, dieses Gebäude steckt voller Ideen. Es reicht vom Wunder bis Firmament und vom Fundament bis zum Dürmer. Im Erdgeschoss Finden sich hier Türen, die sind direkt ins Feuer oder besser gesagt in den Grundstein. Doch an Worten der Wählungswelt kommt Beton, Grundsteinlegung, Lüge, Lüge, Lüge. Gedankenklinge sind gestrichen, den Kopf für Braun, in Farben, katholisch, violett zur besseren Orientierung. Dachgeschoss. Eine Schande im Dachstuhl sitzt ein anderer Mann auf dem Boden tot, weil er Engel verstreut. Zwischen den Knien hält er ein Gewehr, er zielt auf seinen Mund. Und in den Schädel, durch den Schädel und aus dem Schädel heraus in den Dachstuhl dreht das Geschoss.
Salut à tous et bienvenue pour la deuxième partie de Jeudi Noir qui reprend après une longue période de confinement forcé et subi et voilà, et nul. Donc nous sommes ravis d'être avec vous ce soir pour vous présenter un livre de Eyal Weizman qui s'appelle La vérité en ruine. Manifeste pour une architecture forensique, édité chez Zone il n'y a pas très longtemps, que nous présente Michel. Et vous venez d'entendre un morceau de Hans Tjernsten de Neubauten, Haus der Lüge. Traduction, les nouveaux immeubles effondrés, la maison du mensonge. Voilà, puisqu'on est toujours dans des titres qui collent à, voilà, au contenu du propos de manière, bon, effarante, quoi. Voilà. Donc, on l'a, que ce soit en français, en allemand, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà où on en est. Alors, la vérité.
José assure trop, quoi.
Voilà, c'est ça. La vie nous est revenue, mais affûtée comme un opinel.
C'est ça.
Aiguisée comme une lame, pointue comme un couteau.
Voilà.
Bon. La vérité en ruine, manifeste pour une architecture forensique.
Mais parents comme une queue de pelle.
Parents comme une pelle. Mais Eyal Weizman. Alors, on est essayé de nous présenter un petit peu l'originalité de la démarche de l'auteur, là, dans ce livre, qui essaye, en somme, avec un collectif de militants, d'horizons divers, du point de vue des compétences professionnelles. Il y a des artistes, des vidéastes, lui-même est architecte de formation, qui s'efforce, en fait, de reconstituer à partir des traces laissées dans la ville, dans les murs, dans les immeubles, dans les trous d'obus, de reconstituer la vérité des faits que les états criminels, ils sont nombreux, cherchent à dissimuler sous leur propagande. Et le projet d'architecture forensique, ça serait ça, c'est-à-dire cette espèce d'enquête de reconstitution rétrospective des faits à partir des traces qu'ils ont laissées, de manière à confondre finalement la propagande d'État en leur opposant des reconstitutions minutieuses de ça. Donc alors il y a le livre effectivement qui présente ça comme un projet à la fois théorique et puis et militant. Et puis il y a un site internet, on l'a dit aussi, vous pouvez taper sur internet architecture forensique, dans lequel justement vous trouverez comme ça tout un tas de reconstitutions vidéo et de faits d'assassinats ciblés, d'attaques de drones, etc., ou de bavures policières, comme on dit bien de chez nous d'ailleurs, il y en a un certain nombre. Tu voulais peut-être nous lire un passage, Michel, de ce texte là, de La vérité en ruine de Weizman, pour qu'on ait une idée un petit peu du type d'écriture.
Bah oui, et puis d'autant que José m'a fait remarquer que vous avez philosophiquement agressé d'entrée avec des trucs un petit peu très très abstraits. Et donc, je vous lis un petit passage du texte qui précise les choses. Bien que nous utilisions le terme forensique, notre travail vise en fait à transformer l'approche criminalistique telle qu'elle est pratiquée actuellement et à inverser la direction du regard forensique officiel. C'est-à-dire la façon dont les organismes étatiques, tels que la police ou les services secrets, surveillent tout un ensemble de citoyens. Nous utilisons l'architecture forensique pour surveiller ces organismes étatiques, et aussi parfois des entreprises privées, contester leurs prétentions et, dans la mesure du possible, leur quasi-monopole sur l'information en temps de guerre. Cette inversion du regard de la police scientifique est résumée par un néologisme proposé par Thomas Kinnan à la suite d'Alan Sekula, à savoir l'idée d'une approche contre-forensique. L'État a revendiqué jusqu'à présent le double monopole de la violence létale et de son identification. L'approche contre-forensique retourne donc les méthodes et les outils mêmes de l'État contre des violences que celui-ci commet. Si les méthodes forensiques sont des instruments de l'État, l'approche contre-forensique, telle que nous la pratiquons, est une pratique citoyenne visant à interroger l'environnement bâti afin de mettre en lumière la violence politique exercée par les États. Dans notre optique, l'idée de s'emparer des moyens de production revient à s'emparer des moyens d'administration de la preuve. Dès lors, l'approche forensique n'est plus seulement le domaine technique et neutre d'experts spécialisés, ni celui de l'application de la science empirique dans le cadre du système judiciaire officiel et de ses protocoles, mais une pratique citoyenne engagée, visant à formuler des revendications publiques en ayant recours à l'architecture.
Alors, l'architecture en sens très, très particulier, là, comme on dit toujours. Hein.
Ah ben, Il y a plusieurs, comment dire, le texte a plusieurs niveaux, il mêle différents exemples. Lui, l'architecte, donc il s'est surtout intéressé à l'architecture. Ensuite, il montre que, justement, cette approche est plus large. C'est-à-dire que, par exemple, on peut justement aussi étudier, mettons, la nature avec cette approche. Et par exemple, comment établir, ça c'est une question qui est vraiment super intéressante. Mettons, vous avez un champ qui a été pollué par une entreprise quelconque, des gens attrapent un cancer autour de ce champ, comment prouver que c'est bien ce qui s'est produit dans ce champ qui est la cause directe, enfin pas directe, mais justement, c'est le problème, la cause plus ou moins lointaine du taux de cancer, par exemple. Donc là, il y a vraiment, je trouve, quelque chose d'intéressant, c'est... c'est justement la réoccupation d'un terrain qui avait été en partie abandonné par par une certaine philosophie politique. Et en plus, bon, alors là, il y a des références philosophiques et sociologiques dans le texte. Quand il dit que l'État exerce non seulement un monopole sur la violence, mais aussi un monopole sur l'identification de la violence, je trouve que c'est, alors c'est une référence à Max Weber, le sociologue allemand, qui définissait l'État comme monopole. La violence légitime, de la violence physique légitime, mais il ajoute quelque chose, c'est que c'est aussi dire ce qui est violent ou non violent. Et sauf que ici, c'est pas qu'une question de type performatif, c'est-à-dire c'est pas simplement qu'est-ce qu'on dit violent ou pas, c'est comment, quelles sont les traces matérielles qui permettent d'identifier ou de ne pas identifier la violence.
Et du coup, enfin, je pose une question un peu naïve là-dedans, mais parce que j'ai pas lu le livre. Dans ce qui est présenté là, qu'est-ce qui, d'après toi, du coup, va distinguer ça? Alors, j'entends bien qu'effectivement, du coup, du point de vue d'une philosophie politique qui a insisté beaucoup sur les rapports de pouvoir et sur l'instrumentalisation des discours ou des connaissances ou des croyances, et qui, du coup, a minimisé la recherche de la vérité comme étant quelque chose de secondaire par rapport à l'analyse des rapports de force, de pouvoir, etc., qui contrôle quel discours ou pas. Donc je comprends bien qu'effectivement dans une tradition comme celle-là, ça soit nouveau de s'intéresser aux faits ou d'essayer d'établir des faits pour les opposer à des crimes ou à des abus de pouvoir au sens large. Qu'est-ce qui distingue ça quand même de ce qu'on a appelé pendant très longtemps le reportage de guerre, ou tu vois, ou les lanceurs d'alerte, ou même si tu veux, voilà, la tu vois, des entreprises un peu d'information ou divulgation ou d'établissement des faits type Wiki, type Assange, type etc. Est-ce que finalement on n'est pas plutôt dans le prolongement de ce type de démarche là avec, alors peut-être effectivement avec des méthodes ou avec des compétences ou avec un champ, tu vois, qui travaille plus sur les analyses d'images ou sur les traces urbaines, je ne sais pas, peut-être. Mais est-ce que finalement en réalité on n'est pas dans la continuité de ça, d'une espèce de documentation des crimes de guerre, je dirais, des crimes d'État, avec tous les moyens, avec les moyens techniques les plus efficaces, quoi. Enfin, c'est peut-être du coup un peu moins sexy de le dire comme ça, mais
pour moi c'est ça. C'est-à-dire le truc qui est intéressant, c'est de voir comment, d'une certaine manière, ces gens-là, il le dit, hein, il dit finalement. Et c'est la question que je posais au début, c'est-à-dire est-ce qu'en gros son appareil conceptuel initial qu'on a déjà décrit, qui insistait plus sur les rapports de pouvoir et sur la production du savoir par les différentes formes de pouvoir, est-ce que c'est un obstacle ou est-ce que c'est une aide dans sa recherche? Parce que moi j'ai l'impression qu'il revient en réalité à quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire que il s'est passé quelque chose. Comment est-ce qu'on sait ce qui s'est passé? Et ce qui, du point de vue de la plupart des gens du sens commun, qu'on parle de philosophie, est juste une question basique, quoi. Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a explosé? Pourquoi est-ce que les gens sont morts? Sauf que ce qui est rigolo, c'est que quand t'abordes ça d'un point de vue postmoderne, en fait, tout d'un coup, ça devient un abîme. Tu vois, c'est déjà un truc mystérieux parce que
c'est l'État qui contrôle.
Normalement, mais surtout
l'État qui a fait, c'est l'État qui sait, c'est l'État qui saura et qui dira.
Il y a rien en dehors du signifiant. Il y a rien en dehors du langage, il y a rien en dehors de ceci, il y a rien en dehors de cela. On ne peut pas le savoir, ou alors tout est relatif à ta conceptualité, bref. Et donc, d'une certaine manière, il fait un long détour pour revenir à des évidences. Ce qui est intéressant, je pense, malgré tout, c'est comme je te disais, c'était dans dans le fait que quand tu dois apporter des preuves en justice, il est clair qu'il faut, en quelque sorte, construire ta preuve. Et peut-être que là, le côté constructiviste de sa démarche l'a aidé. Alors, elle l'a aidé aussi, peut-être aussi du point de vue rhétorique, c'est-à-dire qu'il est très très conscient du fait que il suffit pas d'exposer les faits pour que les gens soient convaincus. Et donc, il est aussi conscient, mais ça, je pense qu'on a pareil. Je pense qu'on n'a pas besoin de toute la philosophie postmoderne pour le savoir. Hein, comment dire, les orateurs antiques le savaient déjà. Hein, c'est une question de rhétorique, de comment présenter la vérité pour convaincre les gens. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de, comme tu dis. C'est une espèce de
parce que c'est le terme de suite. C'est le terme de manifeste, si tu veux, qui m'alerte un peu. Alors après, on a le droit de faire des manifestes. Hein, moi, j'ai rien contre ça. Après, quand t'affirmes un manifeste, en général, c'est tu poses une proposition nouvelle qui risque effectivement de susciter de la polémique. Mais là, si tu veux, je vois pas directement. Alors, c'est une rhétorique d'État, c'est ça. Il habille ça avec une espèce de rhétorique policière qui est inhabituelle dans ce champ
politique.
C'est ça.
Là, c'est ce qu'il dit au début. Il dit la vérification ouverte, c'est le dernier. Ces derniers chapitres du bouquin. Ça, je peux vous le lire aussi parce que je pense que c'est intéressant. C'est, alors, il faudra distinguer plusieurs choses. Il y a le niveau philosophique. Au niveau philosophique, je pense qu'en fait, le gars a été obligé de réinventer le fil à couper le beurre. C'est-à-dire le simple truc d'admettre qu'il y a des faits et on peut dire des choses vraies ou fausses sur ces faits. Ce qui pourra sembler étrange à certains auditeurs, pas du tout à d'autres, ce qui dans un certain contexte philosophique est presque pas possible à dire.
Parce qu'il n'y a que des interprétations.
Parce qu'il n'y a que des interprétations des faits. Il n'y a pas de faits, il n'y a que des interprétations, c'est Nietzsche. Et donc, quand tu es obligé d'enquêter sur des crimes de guerre, au bout d'un moment, et que tu parles à des gens qui n'ont pas fait 10 ans de philosophie à la Sorbonne, tu es obligé d'admettre ça. Il y a des faits et on peut dire des choses vraies ou fausses sur ces faits. Et donc là, à mon avis, Weizmann, il a dû faire une espèce de long détour pour revenir à cette évidence, à cette banalité. D'accord ? Donc ça, il y a le côté philosophique. Il n'y a pas photo. Ensuite, il y a tout un côté technologique qui est super intéressant. C'est comment, globalement, et ça, il le décrit assez bien dans son livre, comment est-ce qu'on exploite les données produites aujourd'hui, soit par les satellites, soit par les téléphones, soit par les vidéos, soit par les témoignages, comment on les exploite pour former une preuve. Face à des États qui ont les moyens d'effacer ces données, ont les moyens de produire d'autres données, etc. Et donc là, il y a une intervention qui est à la fois technique, je dirais, d'un point de vue technique, il y a du nouveau. Mais après, c'est comme tu dis, en termes conceptuels, en réalité, il n'y a pas de rupture avec l'établissement des faits tel qu'il peut être fait classiquement.
Parce que tu as des choses qui recoupent aussi le travail d'enquête de l'historien. Aussi,
mais complètement. Complètement. Mais une grosse réflexion qui est intéressante sur... alors ça, par exemple, il y a des trucs nouveaux qui, moi, m'ont semblé intéressants au niveau de l'architecture architecturalement. Il dit, nous, on a affaire à des témoins, parfois. Et les témoins, ils sont très, très souvent traumatisés. La plupart des négationnistes vont utiliser le traumatisme des témoins et le fait que ce traumatisme produit souvent des discours qui sont incohérents, hachés, incomplets, etc., pour dire que ces témoins ne sont pas fiables. Et nous, on a affaire à ça. Et effectivement, très très souvent, en quelque sorte, la preuve négative de la réalité du traumatisme, c'est l'incohérence du témoin lui-même. Et il dit, mais en fait, nous, on s'est aussi rendu compte que, comme on était architecte et qu'on abordait parfois les choses, on voulait savoir où le missile avait explosé, pourquoi telle personne était-elle morte et pas telle personne, avec leur accord, on pouvait mettre certains témoins, on pouvait les mettre dans des reconstitutions 3D de la maison dans laquelle il s'était passé l'horreur qu'ils avaient subie.
Un dispositif un peu technologique.
Un dispositif technologique d'architecte autour. et en fait, ça a permis à certains témoins de reconstituer les événements qu'ils avaient oubliés sous le coup du traumatisme. Par exemple, je ne sais plus, c'est une histoire de cheminot de barbecue. Un témoin qui avait une espèce d'image obsédante de barbecue, il ne savait plus pourquoi. En obligeant le témoin à dire où était le barbecue, où était la baignoire, où était ceci, où était cela, ça a pu aider les témoins à se remémorer ce qui s'était produit. En quelque sorte, à plus ou moins combler les vides qu'avait produit le traumatisme dans leur mémoire. Et donc ça, par exemple, je trouvais que c'était des trucs plutôt intéressants, parce que justement, à l'aide d'un dispositif technique, tu peux peut-être aider des gens qui, comment dire, à reconstituer le fil de leur malheur, quoi. Donc, donc à mon avis, les nouveautés, elles peuvent être là. Il y a aussi des réflexions intéressantes aussi. Alors, justement, il s'est aussi heurté, par exemple, à comment considérer le droit et le droit international dans cette optique. Est-ce que le droit, c'est juste un outil au service des puissants? Et il montre qu'à des tas de niveaux, c'est clairement ça, en particulier le droit de la guerre, qui a été fait pour ne pas gêner les militaires dans leurs opérations, et à quel point les militaires eux-mêmes se sont servis du droit de la guerre pour parfois, comment dire, commettre plus d'exactions. Mais en même temps, le droit, ça peut être aussi un outil militant. Donc là-dessus, je trouve que leur background, leur fond de, comment dire, leur fond théorique postmoderne est parfois, comment dire, bien discuté, bien remis en cause là-dedans. Mais un des passages là que je voulais te lire sur le début, c'était justement, tu disais, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Alors il dit, voilà, il y a plus de 10 ans, j'aurais sans doute été horrifié par l'idée d'un institut forensique. Issu du champ de la militance de gauche et des pratiques critiques de l'espace, j'éprouvais une répugnance instinctive envers l'autorité des vérités établies. Normalement, l'approche forensique s'appuie sur une expertise technique liée à des cadres normatifs et juridiques et à une forte saveur d'autorité institutionnelle. Il s'agit après tout d'un des arts fondamentaux de l'État et d'une prérogative de ses appareils, police, services secrets ou armée. Mais voilà qu'aujourd'hui, de manière sans doute contre-intuitive, pour lui en tout cas, je me retrouve à la tête de Forensic Architecture, une équipe d'architectes, de cinéastes, de codeurs et de journalistes qui fonctionne comme un bureau d'analyse forensique et diffuse le résultat de ses enquêtes dans différents forums publics tels que les médias, les tribunaux, les commissions de la vérité et les espaces culturels. Et donc il ajoute, cette réorientation de la pratique réflexive répond aux évolutions de la texture de notre présent et à la nature des conflits contemporains. Ça, je suis pas sûr que...
Ça, c'est n'importe quoi.
Ça, je pense que c'est n'importe quoi. Je pense que ça n'a pas changé, en réalité. Mais bon. L'évolution de l'environnement médiatique permet aux États autoritaires de manipuler, de déformer les faits concernant leurs crimes. Bah non, en fait, ça, c'est vieux aussi.
Oui.
Mais elle offre également de nouvelles techniques grâce auxquelles les organisations de la société civile peuvent inverser la direction du regard forensique. Ça, c'est peut-être vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a plus de moyens de capter les choses, en particulier le... Comment dire, ben, c'est pas pour rien que récemment, l'État français a essayé d'interdire le fait de filmer l'action de la police avec des téléphones portables. Parce que d'une certaine manière, la démultiplication des moyens d'enregistrement audiovisuel de manière, comment dire, complètement, pour parler comme de l'ose moléculaire, c'est-à-dire tout le monde peut filmer à peu près n'importe quoi, rend l'action de l'État plus facilement visible. Et là-dessus, justement, un des principes que Foucault disait de l'État, enfin de l'État des formes de pouvoir, c'était comment être, comment dire, voir sans être vu. C'est le vieux panoptique. Et justement, bah là, l'État est de plus en plus visible, ou son action est de plus en plus visible. Et c'est vrai que ça a peut-être changé la donne. Et donc là-dessus, et après, bah justement, il va revenir sur la post-vérité. Quelle heure il est? 15. On va peut-être faire une petite pause avant de revenir sur la post-vérité, parce qu'il y a plein de trucs intéressants à dire là-dessus.
Au fil des jours, mon amour.
Bonsoir à tous, bienvenue sur cette dernière partie de Jeudi Noir qui reprend
avec joie.
Avec joie et enthousiasme et bonne humeur et brio.
Et brio. Contrairement à certaines rumeurs, nous n'avons pas disparu.
Non, nous sommes là, représente. Et ce soir, on vous parle d'un livre qui s'appelle La vérité en ruine, livre d'Eyal Weizmann, manifeste pour une architecture forensique. Donc Michel, tu nous expliquais un petit peu quelle était la démarche. Alors avant qu'on revienne au texte, là vous venez d'écouter un morceau de Trop Tard qui s'appelle Oublier la vérité. Hein, voilà, puisqu'il semblerait que voilà, c'est la vérité soit ait été oubliée, peut-être même par l'auteur hein, pendant un certain temps visiblement, et que et qu'il a retrouvé.
C'était un truc de méchant métaphysicien à la tête des États.
Ouais, c'est ça. Et donc là, et ben il explique comment il est désormais à la recherche de l'établissement des faits des États criminel par l'analyse de l'image, mais aussi des logiciels de simulation en 3D qu'il utilisait dans sa pratique d'architecte quand il construisait des maisons, parce que maintenant, il construit des enquêtes et il construit des preuves pour confondre les états criminels au sein de son collectif pour une architecture forensique. Tu voulais nous lire un petit passage
Différent petit passage, peut-être ouais. C'est-à-dire, parce qu'il va évidemment se heurter à la post-vérité.
Alors, vas-y, dis-nous deux mots là-dessus, quand même.
Bah, c'est-à-dire que quand on a... c'est un truc entre philosophes, c'est un peu, mais... Ouais. Quand on a l'idée que le pouvoir produit de la vérité, et qu'on refuse de distinguer entre connaissance et croyance, on peut être embêté face à un Trump. qui, de tout dit, de toute évidence, n'importe quoi. Et donc, comment, que faire avec de la post-vérité, d'une certaine manière? Et donc, lui, il va dire... globalement, la post-vérité, c'est un petit peu plus que le simple mensonge. Et donc, lui, il va dire, dès lors qu'il distingue, en gros, les États ont toujours menti. Qu'est-ce qui change la donne avec la post-vérité ?
Avec Trump.
Avec Trump, en gros. Et il va dire, ce n'est pas tant un degré exceptionnel de dissémination des contre-vérités qu'une série d'attaques permanentes contre les autorités institutionnelles censées établir et étayer les faits. Experts gouvernementaux, universités, laboratoires scientifiques, grands médias et pouvoirs judiciaires. Et lui, il ajoute, dans la mesure où l'approche contre-forensique vise elle aussi à remettre en question l'autorité des institutions étatiques, nous cherchons à déconstruire la propagande de la police et de l'armée, les mensonges du gouvernement et l'usage répressif du système judiciaire contre les victimes de l'État. Et donc là, il nous dit, il nous faut bien faire la différence entre notre pratique et les tactiques des forces politiques susmentionnées. Donc malgré tout, là, en fait, à mon avis, il se prend un peu les pieds dans le tapis.
Oui, ça se pourrait.
Parce que...
Enfin, en même temps, sur un risque qui est limité quand tu réfléchis, oui. Parce que si le gars, son truc, c'est de reconstituer les bavures policières, les assassinats par drone au Pakistan ou les interventions américaines, les services américains en Syrie, il y a peu de chances, si tu veux, qu'en établissant des preuves de ces faits-là ou de ces crimes de guerre-là ou de ces assassinats ciblés, ils puissent être utilisés tels quels par un Trump ou par l'appareil d'État pour dissimuler des faits qu'eux-mêmes ont commandés, en fait. Alors après, le fait, effectivement, c'est l'idée, c'est son positionnement par rapport aux institutions qui le met mal à l'aise.
Oui, je pense.
Il se dit que finalement, en fait, les institutions judiciaires peuvent éventuellement condamner des États ou des responsables de l'appareil d'État, et que du coup, c'est un peu chiant de les penser forcément comme une espèce de bloc hostile et ennemi.
C'est
un peu ça,
oui.
L'idée.
Possible, parce que qu'est-ce qui se passe quand, justement, dans un régime de post-vérité, t'as la tête de l'État qui s'en prend aux autres institutions?
Ouais. Et en particulier à la justice.
Et ou à la science.
Ouais. Mais la science, il n'est pas contre la science quand même. Là il dit plus là.
Il la cite comme les institutions quand même chargées d'établir la vérité officielle entre guillemets.
Ah, l'université, c'est une institution d'État.
Eh ben oui.
Ah, d'accord.
Et donc, quand t'as les experts, quand t'as les... en gros, quand tu confonds systématiquement vérité et comment dire, et discours établi, évidemment, t'as des problèmes quand tu as affaire à une forme de pouvoir qui va s'en foutre complètement d'une correspondance même élémentaire entre ce qu'elle raconte et ce que la plupart des gens peuvent observer.
Ouais, d'accord. Oui, donc effectivement, il vient de loin là. Ah, il y a le Weizmann.
Il vient de loin, je pense. Mais et donc. Il va dire.
Après, il arrive que l'université fasse n'importe quoi. Oui, c'est bien sûr. Mais après, que le fait de se dire qu'à partir du moment où t'es dans l'université, t'es forcément au service d'une vérité, d'une propagande d'État. Enfin, que l'université, c'est la propagande d'État. Effectivement, là, si tu pars de ça comme postulat, tu.
Bah, il le dit pas tel quel, hein, en même temps. Il n'y aura pas ça. Hein.
Non, bah non, elle est pas d'accord. Regarde, donc.
Les ministres là,
ces
ministres
repères d'islamo-gauchistes. Oui.
Voilà, donc. Donc, globalement, il va, par exemple, il va essayer de distinguer. Il va dire, voilà, il parle de l'épistémologie des ténèbres. Mmh. Et c'est justement pour lui la nouvelle façon dont vont procéder les États pour, en quelque sorte, masquer les États, mais aussi les groupes privés, comme par exemple l'industrie du tabac. Et comment est-ce qu'ils vont masquer les faits? Et là, il y a plusieurs choses très intéressantes. Et il dit, voilà, par exemple, la post-vérité ne vise pas à vous persuader ou vous communiquer des contenus, ni à promouvoir les mérites supposés d'un système par rapport à un autre, égalité contre liberté, Est-Ouest. Mais plutôt à brouiller la perception afin que plus personne ne sache plus distinguer le vrai du faux. Ça, je pense qu'on peut trouver cette phrase telle quelle chez Orwell.
Oui, c'est sûr.
Sur le truc du totalitarisme.
La destruction du concept de vérité objective. L'idée c'est ça. En fait, il n'y a pas de vérité objective. Il n'y a pas d'extérieur au discours de pouvoir. En c'est fait, ça. Ce qui compte, c'est la propagande.
C'est ça. Il n'y a pas de discours. Il n'y a pas d'extérieur au discours.
Et c'est la force qui décide de ce qui est vrai.
Et c'est la force qui décide de ce qui est vrai.
Point.
Et donc, il n'y a plus de distinction entre connaissance et croyance. Il n'y a plus de distinction entre vrai et faux. Mmh. Ce qui est vrai, c'est ce que dit le pouvoir. Point. Mmh. Et donc ça c'est du Orwell tout craché quoi.
Et donc c'est vrai que c'est ça la post-vérité, c'est vrai que Trump lorgne vers ça, ça c'est tout à fait
donc,
juste.
Donc à partir du moment où les gens ne savent plus quoi penser, comment établir les faits ou dans quel cas leur faire confiance, les dirigeants ont les mains complètement libres pour combler ce vide à leur guise. La post-vérité fonctionne également comme une nouvelle forme de censure, car elle bloque notre capacité d'évaluer et de débattre des faits. Je pense que c'est une conséquence, c'est quasiment la même chose que le premier point. Non ?
Si,
tu vois, lui il distingue brouillage, censure. Là, je trouve, il dit c'est un peu plus que la censure, une nouvelle forme. Je suis pas sûr. Il dit les gouvernements rencontrent des difficultés croissantes lorsqu'ils souhaitent empêcher la circulation de données et étouffer certains discours politiques. La post-vérité, qui fonctionne par ajout plutôt que soustraction, leur permet ainsi d'augmenter le volume du bruit parasite dans une manœuvre délibérée pour détourner l'attention.
Oui, bon.
Bon, on fait circuler un maximum d'idées pour brouiller les choses. Effectivement, pour moi, ça revient au brouillage de la perception afin que plus personne ne puisse distinguer ce qui est vrai ou faux. Et il va dire, voilà, le négationnisme de la post-vérité ne propose pas une argumentation épistémologique sur la nature des faits et la meilleure façon de les établir. Et ça, c'est un truc que réclame, en quelque sorte, l'épistémologie réaliste depuis le départ. Hein. C'est... en gros, les philosophes qui défendent l'idée que on peut établir une distinction entre le vrai et le faux, et qu'on peut connaître, qu'on peut essayer de connaître les faits, vont pas dire les faits sont ainsi, on le sait, et fermez vos gueules. Ils vont dire justement non, plus la difficulté, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut établir un fait. Et donc là, j'ai l'impression qu'il redécouvre un petit peu l'eau chaude. Mais cherche à mettre en doute donc la post-vérité, la possibilité même de l'établir de façon fiable. Et donc il dit voilà, il s'agit d'une épistémologie des ténèbres. Pour reprendre la caractérisation des divers commentateurs qui cherchent à masquer plutôt qu'à révéler l'information. Alors, et en fait, d'un point de vue conceptuel, après tu vas voir, il va dire, il cherche à dire, voilà, d'aucuns suggèrent que les attaques actuelles contre la vérité ont une affinité avec les politiques de l'identité liées aux luttes d'inspiration progressiste ou libertaire menées par les minorités, là effectivement je ne vois pas le rapport, ou bien avec une philosophie post-structuraliste de gauche qui identifie les vérités établies, la science, les valeurs des Lumières et le sens commun comme produit des rapports de pouvoir et main de domination.
Oui, donc il se sent pas propre, là.
Il se sent pas propre, là. Mmh. Effectivement, le lien entre les politiques de l'identité et les attaques actuelles contre la vérité...
Bah si, c'est le fait qu'effectivement que tu vas trouver chez certains, dans certains discours...
Mais je suis pas sûr que le lien soit nécessaire et suffisant, en fait.
Non, mais c'est-à-dire que tu as des discours où on t'explique effectivement que la vérité, c'est la vérité blanche, par exemple, ou occidentale. Voilà, ou que ouais. les lumières, effectivement, ouais. enfin, c'est aussi simple que ça, quoi. Ouais. Le fait de dire que la recherche de la vérité ou que la défense de l'émancipation par la connaissance ou par les sciences, c'est une théorie de blanc. Ou de colonialiste ou que et que donc c'est en soi une démarche raciale et c'est donc en soi l'expression d'abord d'un rapport de pouvoir avant d'être un rapport au fait. Bah effectivement c'est des choses que tu peux trouver effectivement enfin c'est pas des c'est pas complètement déconnant c'est effectivement une forme de destruction de la vérité objective aussi, ça c'est clair. Effectivement, elle vient du côté de la gauche et du côté d'une défense des minorités, mais c'est aussi une manière de s'attaquer à l'idée de vérité objective, ça c'est clair.
Ensuite, j'ai tendance à penser que c'est toujours des attaques partielles qui, en fait, enfin bon, mais c'est-à-dire que il manque plein de choses aux lumières pour être réellement ce qu'elles devraient être, mais très très souvent elles péchaient par particularisme plutôt que par universalisme.
C'est pas
ce qu'on dit les critiques. Et donc là-dessus, il va dire. Et là, c'est intéressant comment il se défend, parce qu'il dit, il est exact qu'il est arrivé à quelques promoteurs de l'épistémologie des ténèbres, donc lui, il pense à des Trump, à l'extrême droite, à des gens comme ça, de faire référence en passant au héros culturel du post-structuralisme, ce qui a pu amener certaines personnes à reprocher au post-structuralisme lui-même d'être la source de ces maux de notre présent. Il ajoute, il me semble toutefois que si l'on veut résister à l'épistémologie des ténèbres, notre stratégie doit être plus subtile, nous ne devons ni céder à la tentation de nous en prendre à la déconstruction, ni nous replier sur une position familière de dernier recours en défendant le positivisme d'hier aux côtés des gardiens officiels du pouvoir savoir.
Bon, d'accord, ok. Il est pas sorti du sable quand même, lui. Après, vieux. C'est en même temps, c'est aussi vieux que le sophiste de Platon, cette affaire-là. Mm-hmm. Enfin, tu vois, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'on a effectivement. Ce débat-là depuis la naissance de la philosophie aussi, sur la nature de la vérité. Est-ce qu'effectivement il s'agit de convaincre ou d'établir des faits en fait, voilà.
Mais moi, ce qui est marrant, c'est qu'il essaie la façon dont il essaie de distinguer, en gros, Trump du postmodernisme, c'est une question de citation. En gros, Trump ne cite pas Foucault, quoi. sans reconnaître qu'il peut y avoir une fragilité. Inhérente.
Une erreur même.
Une erreur. une fragilité en termes stratégiques et une erreur en termes philosophiques dans les positions postmodernes ou post-structuralistes. Ouais. Et que l'abandon de la notion des notions de fait et de vérité était aussi peut-être. Une défaite en race campagne, quoi. Tout
simplement. C'est une défaite en race campagne, et puis surtout, c'est ni de droite, ni de gauche. Ce truc-là, je vais à Lysenko, c'est le stalinisme a fait ça, tu vois, t'as une science socialiste, et puis une science qui ne l'est pas, Et effectivement, systématiquement.
Les nazis ont fait la science allemande et la science juive.
Voilà, donc si tu veux, effectivement, la critique de l'idée de vérité objective, tu trouves ça
dans tous les camps.
Dans tous les camps. Dès lors que, en fait, tu subordonnes la recherche de la vérité au pouvoir. En fait, quoi, d'une certaine manière. Et en fait, pour tous les amoureux du pouvoir, mais il y en a à l'extrême gauche et il y en a sans doute parmi les défenseurs des minorités. Il n'y a pas de raison. Donc, effectivement, alors dès lors qu'effectivement tu as des amoureux du pouvoir qui font passer ça avant la recherche de la vérité, le positivisme, c'est la philosophie à papa, c'est dépassé, c'est l'État, c'est les flics, c'est tout ce que tu veux.
Mais là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, en se plaçant du point de vue des gens qui ont été victimes de crimes d'État, il est obligé de revenir à une question basique, c'est juste quels sont les faits, qu'est-ce qui s'est passé. Et effectivement, quand tu te poses cette question-là, tu vas être amené quasiment nécessairement à contester le pouvoir d'État, le pouvoir des gens qui contrôlent le discours, qui contrôlent les discours dominants, et qui vont essayer eux de faire passer leur discours pour la vérité objective.
Ouais.
Et le problème, ça va être de confondre ce discours de prétention à la vérité objective comme étant la vérité objective.
Mais du coup,
on a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes.
Il est quasiment dans le camp des Lumières maintenant.
Oui,
depuis
c'est ça.
Maintenant qu'il lutte contre l'épistémologie des ténèbres.
Il est quasiment
dans le camp des Lumières.
Bah, pour le coup, je pense que.
Il
ne le dira pas, mais je pense que son travail,
ce qu'il fait, c'est un
super boulot, je pense. Un boulot intéressant et. Qui mérite d'être lu, je pense, d'être soutenu. Après, si vous avez un petit peu de, une veine philosophique, et que vous venez du camp un peu rationaliste, disons, vous aurez peut-être l'impression de parfois de patauger. si vous venez de l'autre camp, vous aurez peut-être l'impression parfois d'être choqué par des déclarations absolument objectivistes, naïves. Mais je sais pas, je pense que dans les deux cas, c'est intéressant. Voilà, okay. Donc c'était Jeudi Noir.
La vérité en ruine.
J'espère avoir été à peu près clair pour cette...
C'est la reprise.
C'est la reprise, c'est tout ça. C'est un peu compliqué, mais voilà, bon, on est bien content. La prochaine émission, on la fera peut-être en hommage à notre ami Jacques Bouvresse, qui est mort il y a 2 semaines maintenant à peu près. Ouais. Donc on va voir si on arrive à la faire une émission un peu correcte, parce que on l'avait invité à nombreuses reprises à Jeudi Noir et on a pris un gros coup sur la tête, Jean-Mathias et moi, à cette occasion. Et voilà, donc on verra ce qu'on peut faire.
Rendez-vous dans 15 jours. C'était La vérité en ruine, manifeste pour une architecture forensique de Eyal Weizman, édité chez Zone. Et on vous laisse avec Urbaine Autopsie, le fossoyeur.